Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et toutes pour cette table ronde sur le corps urbain et les technologies. Donc nous avons trois invités, Olivier Hirschfeld, Ben H. Winters et Jean-Louis Trudel, avec nous aujourd'hui, respectivement chercheurs en sciences de la communication pour Olivier Hirschfeld, Ben H. Winters, grand auteur de science-fiction, et Jean-Louis Trudel, historien et auteur de science-fiction. Je vous laisse peut-être vous présenter.
Oui, bonjour. Donc Olivier Hirschfeld, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et je m'intéresse notamment à la question des algorithmes et de comment ça façonne un petit peu nos modes de vie dans la ville notamment.
Jean-Louis Trudel, donc historien des techniques au Canada, également écrivain de science-fiction depuis une trentaine d'années et je m'intéresse occasionnellement aux dangers et potentiels des villes du futur.
My name is Ben Winters. My most recent novel is called Underground Airlines, which is a novel about racism and slavery in America, but which gets into issues of the control of the physical body by capitalism and civilization.
Alors, le corps urbain et les technologies. Si le corps urbain a toujours été un petit peu façonné par les villes, on se souvient de notre réflexion dans ces vitrines sur les boulevards Haussmann, du flâneur qui se changeait progressivement en figure de consommateur. Aujourd'hui, avec l'émergence des nouvelles techniques et technologies, les villes se transforment complètement à la lumière de ces nouveaux paysages. Et on doit du coup réfléchir au sujet des technologies de surveillance, des technologies, la façon dont on va être filmé, dont on va aussi peut-être pouvoir améliorer ces villes sur le plan d'une écologie ou d'économie plus collaborative, d'énergie durable. Donc on va essayer d'aborder un petit peu tous ces sujets. Peut-être d'abord avec Olivier Hirschfeld sur la façon dont la vie privée pourrait être modifiée en fonction de ces nouveaux usages.
Oui, donc globalement, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, avec la machine algorithmique implantée au sein de la cité, au sein des villes, il y a des pans entiers effectivement de notre vie privée qui sont en partie menacés. Il y a aujourd'hui des expérimentations qui ont lieu déjà à relativement grande échelle. Du côté de Toronto, par exemple, il y a 30 hectares où il y a un projet urbain de smart city ou de ville intelligente avec des capteurs partout, des passages piétons ou à l'intérieur des immeubles et qui est donc entièrement régulé par des algorithmes. Et on voit bien, sans qu'il y ait besoin d'y passer deux heures, que ça va forcément poser des questions effectivement de contrôle, c'est-à-dire où vont les données, qui c'est qui les conserve, pour en faire quoi. Et puis ça va aussi, l'autre risque à mon avis, c'est que ça a tendance à prescrire des comportements normés. Alors quand on est dans une démocratie, tout va à peu près bien, ça n'empêche pas de se poser des questions, mais quand on bascule effectivement dans des pouvoirs politiques qui sont plus autoritaires ou carrément dictatoriaux, comme c'est le cas par exemple en Chine, on voit bien que ces technologies algorithmiques de surveillance, de contrôle et d'organisation de l'espace de la cité, elles posent évidemment d'énormes problèmes démocratiques. En Chine, on a beaucoup parlé récemment d'un système qui s'appelle le social credit et qui est l'écriture dans la vraie vie d'un très bon scénario de la série de SF Black Mirror, où effectivement chaque citoyen a un score qui lui est attribué en fonction de ce qu'il fait bien ou ce qu'il fait pas bien aux yeux du régime et qui lui donne droit à certaines choses ou qui le prive de certaines autres. Donc la question de la vie privée aujourd'hui, elle se pose pas simplement à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle du collectif urbain, on va dire.
Alors, quelles sont tout d'abord peut-être les technologies utilisées dans ces villes du futur, ces nouvelles villes numériques, quelles seraient-elles ?
Alors, il y a des technologies de vidéosurveillance. Hein, ça, c'est la technologie qui vient en premier. Et puis après, c'est effectivement le comment dire, le problème, c'est l'entrecroisement ou le croisement entre des bases de données tout à fait différentes. Aujourd'hui, on a quelques grands acteurs, les GAFA, qui savent déjà plein de choses sur nous parce que on a notre webmail chez Google, on achète nos livres à la librairie des Utopiales et quand on peut pas sur Amazon, malheureusement. Et quand on rajoute à ça une nouvelle couche sur la manière dont on se déplace dans l'espace urbain avec ces petits fichiers mouchards qu'on a tous dans nos poches et qui sont des smartphones ou des montres connectées, et quand on regroupe tous ces comportements-là, et ben effectivement, ça donne une situation qui peut très vite basculer du côté de la dystopie en termes d'utilisation de ces technologies à des fins de contrôle ou autre.
Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Le modèle chinois que vous évoquiez, donc réel, est-ce qu'il relève un petit peu de la dystopie, déjà ?
Yeah. Yes, it's already a dystopia. I mean, I think there's a dystopia is not a binary thing, that one day we switch over from normal life into a dystopia. I think we need to, and one thing that science fiction helps us do is think about the ranges of possibility, and that when you enter a world as described, where everyone is wearing a sort of, you know, the government can assign to you a status number that's then relevant to, you know, what you're afforded in terms of whether you can have an apartment or what kind of job you get and all that. That is a nightmare in terms of human interaction, and that it's related to the idea of all of us on Facebook and all this other crap, and you're always conscious of how many likes you're getting and how many retweets or whatever, and so we are assigning ourselves a status, and that too is dystopian, and it's not unrelated. The idea that, well, it's bad if the government controls our sense of self and our status, but it's okay if a giant corporation that is held for profit does the same thing, that's not okay either. And I think that it's a question of what we allow ourselves to accept.
Donc, est-ce que vous avez entendu parler probablement de la citoyenneté numérique et de cette citoyenneté numérique où tout est quantifié en fonction d'ordre de valeur et d'évaluation sans cesse, du like, c'est ça, ou du pas like, ou du like moyen des choses. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur ce sujet?
It sucks. It's bad.
I mean, anytime we are subjecting ourselves and our real human lives to a data set, to a spreadsheet, theoretical or otherwise, somewhere, we are losing an essential part of what it means to be a human being. And we are allowing ourselves to be subjugated to something that feels like it's just this abstract thing, data. But data is not an abstract thing. Data is the profit center for corporations, for, you know, I keep coming back to this, but it's a capitalist thing. We're giving ourselves over to people for their profit and not our lives. It's bad.
Donc, entrer dans une ère de dataïsme où tout est quantifié un petit peu comme ça en data que l'on donne et qui sont récupérées pour cibler nos comportements et peut-être nuire à notre vie privée. Jean-Louis Trudel, que reste-t-il à faire?
Du point de vue des dirigeants chinois, il faut bien se souvenir que le modèle actuel est plutôt une utopie qu'une dystopie. C'est le genre de société qu'ils veulent construire. Et au fil des ans, à chaque fois qu'on a voulu justement redessiner la ville du futur, et là justement on était en train de voir à l'écran qu'en remontant à l'Empire romain, on a eu des villes planifiées pour justement bien contrôler toutes sortes de choses, le flux de circulation, le commerce, le contrôle par l'armée romaine. Et quelque part aussi, les villes souvent s'étendent au-delà de leurs frontières et contrôlent la région environnante. Donc, il y a une longue histoire de l'utilisation de villes par des pouvoirs politiques. Nous sommes entrés maintenant dans l'ère, on pourrait dire, des deux villes, c'est-à-dire il y a la ville physique et il y a la ville numérique. Il y a la ville physique où nos corps arpentent, où nos corps arpentent les rues. Et il y a cette ville numérique où nos corps numériques existent sous forme de fantômes, plus ou moins réalisés selon effectivement le nombre de données que nous partageons avec le système, parfois contre notre gré, parfois à l'insu de notre plein gré. Et donc, nous arrivons dans des situations qui sont inquiétantes pour ceux d'entre nous qui aimons notre liberté, notre vie privée, notre intimité. Et quelque part, c'est une réaction politique qu'il faut, quelque part. Mais comme écrivain de science-fiction, j'ai aussi essayé d'envisager parfois quelles seraient les stratégies plus terre-à-terre pour déjouer ces cadres de surveillance, que ce soit en utilisant... Bon, là, je suis en train de changer un roman que j'ai écrit il y a 30 ans où il y avait des gens qui utilisaient sciemment des espèces sonnantes et trébuchantes, de la monnaie plutôt que la carte de crédit pour éviter de se faire suivre. C'était déjà un enjeu il y a 30 ans. De nos jours, je ne suis pas toujours content de vivre dans le monde de science-fiction que j'ai imaginé il y a 30 ans.
Et ouais, juste pour ajouter, il y a ce qui change en fait aujourd'hui à l'échelle de la ville connectée par rapport au dispositif de surveillance, c'est que jusqu'à maintenant, à l'échelle du numérique, on disposait surtout de traceurs ou de capteurs qui nécessitaient une activité. Et aujourd'hui, dans la ville numérique sont dissimulés tout un tas de capteurs passifs, c'est-à-dire qui enregistrent nos mouvements, nos flux de circulation à l'insu de notre plein gré, comme disait un ancien coureur cycliste. Et donc, on perd encore cette capacité de contrôle et de maîtrise, puisqu'on ne voit plus qu'on est en train d'être tracé, enregistré, quand on est en train de faire telle ou telle activité. Et du coup, c'est d'autant plus compliqué de déjouer ou de contourner ces régimes de surveillance, puisqu'effectivement, ils sont quasiment pour l'essentiel invisibles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de mouvements de résistance qui se structurent contre ces phénomènes. Peut-être qu'on en reparlera après.
Mais parlons-en dès maintenant. Quels seraient les phénomènes de résistance qui pourraient donc s'opérer à l'encontre de ces mauvais usages ou de ces mésusages des villes numériques ?
Go outside and make friends. It's interesting. We were saying that, you know, there are physical cities and there are digital cities. And I think in recent years, with what the internet has given us is this incredible connectedness, this sense of connectedness. Oh, I can talk to anybody in the world and I can be friends with anybody in the world. And I can get into angry arguments about politics with strangers all over the world. And there is, I think we are coming to a point now where everyone said for a long time, wow, this is great. And then one day we all go, oh my God, this is terrible. Like our lives are completely in here or in our pockets, you know, on the phone. And we are focusing too much on the digital life and not enough on the actual physical life. And there is a real sacrifice in that. And there is a sense that we are letting it happen to us without sort of registering it. And especially now, children who are growing up and the digital city is their life from the beginning. There's something about that is, of course, there are many benefits to it, but that is also somewhat tragic in the sense of maintaining that essential humanness of us, which involves walking down the street, talking to a stranger, you know, feeling your body out in the world, you know? So I think we can get up and turn off the computer more. I mean, it's so simple and stupid, but I really think it's, you regain something when you do that.
Alors, quels seraient les avantages de la ville numérique?
Oh, ils sont nombreux aussi, les avantages de la ville numérique. Si on présuppose qu'on est dans un régime démocratique et qu'on a des gens qui sont soucieux, on va dire, des questions de vie privée, en termes effectivement de régulation de flux, qu'il s'agisse de flux automobiles, flux de circulation, la ville numérique où les algorithmes sont capables effectivement d'apporter un mieux circuler. Ça existe déjà. Il y a beaucoup d'hôpitaux, par exemple, dans lesquels les systèmes d'urgence utilisent là aussi des algorithmes pour prioriser, pour gérer là aussi des flux qui sont extrêmement complexes. Donc, isolément, mais comme à chaque fois dans l'histoire des technologies, il y a naturellement des aspects positifs à chacune de ces nouvelles technologies. La question, la seule pour moi qui importe, c'est la question du projet politique qui est derrière. Et est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui, au-delà de la déconnexion qui peut être une solution, est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui de savoir quand Google, par exemple, ou Facebook ou un autre décide de monter ce qu'ils appellent un test bed, donc une expérimentation à taille réelle d'une ville hyper connectée, est-ce qu'on est capable de s'interroger derrière sur le projet politique ou les ambitions qui guident ces acteurs-là? Normalement, dans une ville non numérique, quand on a un projet d'autoroute, par exemple, on ne crée pas l'autoroute et puis on se demande après si ça marche, si c'est efficace, si ça ramène des sous. On commence par réfléchir, on soumet ça au vote, on est élu éventuellement sur un mandat, puis on fait des études et à la fin, on décide de faire l'autoroute ou pas. Avec le numérique, ce qui est à la fois très intéressant mais très problématique parfois, c'est qu'on a les moyens assez rapidement d'implanter des technologies pour effectuer un certain nombre de choses et on ne se pose qu'après la question de la finalité, du but politique ou de l'usage social, bénéfique ou négatif de ces technologies.
J'ai une conception un peu plus large de la ville numérique, un peu comme auteur de science-fiction, et donc pas uniquement limitée à la numérisation, disons, des infrastructures physiques, mais aussi, comme je disais, à cette jumelle numérique où nous habitons parfois, qui existe sous la forme, par exemple, des sites Internet liés aux restaurants, liés à la Cité des Congrès, liés aux différents lieux de la ville. Et donc, quelque part, un des avantages de la ville numérique, c'est d'offrir essentiellement une sorte de réalité augmentée où non seulement on se déplace dans les rues, mais on peut avoir accès ou on aura accès d'ici quelques années à toutes sortes d'informations au sujet des lieux autour de nous, que ce soit des informations commerciales. Google, je pense, est en train de travailler sur des plans d'intérieur d'édifices publics. Donc, non seulement on aura Google Maps pour les rues, mais pour l'intérieur des édifices publics. Plus besoin de... On pourra se rendre dans sa salle de cours à l'école ou à l'université dès le premier jour sans même avoir à chercher. Donc, il y a cette ville qui est optimisée, qui quelque part, prend d'autres formes et des formes plus utiles quelque part pour nous. C'est un des avantages. Je pensais aussi au fait que, dans une certaine mesure, cette ville numérique au sens large, certaines des choses que l'on peut vouloir de la ville, disons dans la ville réelle, seront en quantité limitée, mais dans la ville numérique, et contrairement à certains jeux vidéo où il y a des pénuries artificielles qui sont générées par les règlements, mais dans la ville numérique, il n'y a pas nécessairement de limite à certains des biens numériques que l'on peut obtenir. Et ceci aussi représente une différente façon de vivre en ville. Il y avait quelque chose d'autre qui m'était venu en tête, mais ça m'a déjà... Je l'ai encore sur le bout de la langue, mais ça y restera.
Ça reviendra.
I think it's important to recognize that when we change from the physical city to the digital city, when we live online instead of in physical life, when we interact with one another online, for example, it is not a straight transfer of, okay, we're talking now, but now we're talking online and it's still you and I. It changes. The way that we perceive other people is different online, and the way that we perceive goods and services is different. And even the way that we perceive and interact with physical spaces. Two examples. If I don't have to look at you and look at your reaction to what I'm saying and see your face as I'm talking to you, it is easy for me to think of you as not real, as a hologram or something from a video game. So I can say the worst, nastiest, stupidest stuff to you and not have to deal in real time with the consequences.
No, please.
right.
Don't
I won't.
Say them.
I wouldn't. But there, I think that we... So that is one... reality we have to deal with, that difference in the way that we speak to each other and the way that we think about other people. There's this essential it sounds pretentious, but a sort of piece of our humanity that we sacrifice when our interactions become digitized. And similarly, it is wonderful to contemplate that anywhere I want to go in my city, I can easily go there without having to think about it because my phone just tells me, oh, go there, take a left, go there, take a right, walk up the stairs, and there you are. But there is something that is ancient and powerful about having to figure something out by yourself and being confronted with, do I go left, do I go right? Let me think about my experience. Let me wonder about it. Let me try one way and fail and then have to go back the other way. And maybe I'll be a couple minutes late and maybe that's okay. And so the ease of life that we give to ourselves by the power of digitization and algorithms, the ease and the sense of, oh, I'm so smart because I don't have to think about it. I just go there. There's always a sacrifice that goes along with it. And I think as technologists and as writers, it is part of the job to be a reminder, to sort of ring a bell and say, well, yes, it's great, but also there's this shadow that comes along with it.
Dans les villes numériques du futur, donc, est-ce que ce sera encore possible de se perdre, de flâner, de se perdre et d'être perdu un petit peu comme ça dans cet anonymat de la population urbaine ?
Je pense que tout ce qui devient rare devient précieux. Et donc, si justement il devient difficile de se perdre, difficile de ne pas savoir où on va, ça deviendra peut-être un sport extrême que de flâner.
Il y a, je crois, un grand écrivain de science-fiction qui est en train de travailler sur un roman qui s'appelle Les Furtifs, et où justement l'histoire, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, à l'échelle de ces territoires hyper surveillés et hyper connectés, comment est-ce qu'on peut s'abstraire à un moment donné de cette surveillance qui, encore une fois, la plupart du temps, est invisible. Et puis juste pour revenir deux secondes sur la distinction entre ville réelle et ville virtuelle, je suis sûr que la plupart des gens ici en ont fait l'expérience il n'y a pas très longtemps, pour peu que vous ayez joué avec cette application qui s'appelait Pokémon Go. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et où on avait une superposition, donc à l'échelle de la ville réelle, d'avatars numériques, puisqu'il fallait chasser et retrouver des Pokémon. Et ce qui était très intéressant, c'était la première fois qu'on avait une application grand public comme ça de réalité augmentée, qu'on pouvait tester, à laquelle on pouvait jouer dans les espaces urbains. Et on a vu se produire un certain nombre d'aspects rigolos ou problématiques. Alors on a vu par exemple des gens qui, la question de la propriété privée volait en éclats, puisqu'on rentrait dans le jardin des gens pour chasser des Pokémon. Si le portail est un petit peu ouvert sans avoir besoin de frapper à la porte. Il y a des gens qui se sont mis à chasser des Pokémon sur le site du mémorial de la Shoah. Donc avec des effets comme ça de dissonance cognitive où on se dit mais est-ce que c'est vraiment le lieu, est-ce que c'est vraiment l'objet ? Donc parfois le virtuel, la ville numérique est capable de se superposer à la ville réelle sans créer ces effets de dissonance cognitive, mais il y a tout un tas d'usages aussi pour lesquels le virtuel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le virtuel n'est pas le réel et on ne se comporte évidemment pas dans des environnements numériques ou numérisés comme on se comporte effectivement quand on a les gens en face à face dans un processus de communication.
La furtivité devient justement un thème et même un problème à résoudre pour les écrivains dès qu'on parle des villes du futur. Je pourrais citer ici, par exemple, le roman Little Brother de Cory Doctorow, il y a quelques années, qui n'était qu'à... Durant les années Bush aux États-Unis, on n'en était qu'au début de la surveillance. Donc, Doctorow vulgarisait un peu des codes d'anonymisation sur Internet, mais aussi parlait de la façon peut-être de déguiser sa démarche pour échapper à certains des logiciels de reconnaissance et d'identification. Là, de toute façon, la technologie a déjà évolué au point où il faut penser à des solutions. Si on veut penser à des solutions techniques sans changer justement le cadre politique, il faut penser, bon, peut-être à généraliser le voile islamique pour tout le monde, cacher nos visages, cacher nos yeux, apprendre à marcher de différentes façons. Quelque part, ça, pour revenir un peu au thème du Congrès, cela veut dire justement, quelque part, hacker nos corps pour justement... Parce que si on ne le fait pas, c'est la ville qui le fera pour nous, c'est l'État qui le fera pour nous. Et ça, c'est bon. Il y a des solutions plus futuristes que j'ai vues passer récemment dans la science-fiction, des sortes de boucliers visuels qui détraqueraient les caméras. Je ne suis pas sûr comment ça fonctionnerait, mais essentiellement, on y pense. Moi-même, je suis en train de travailler sur un roman où les personnages veulent échapper à la surveillance. Et la surveillance, est à plusieurs niveaux. Le futur, c'est aussi effectivement des nanocapteurs, des puces RFID dans les vêtements, le déchiffrement des bouts d'ADN ou des bouts de peau qu'on sème dans la rue. Et c'est donc un problème multidimensionnel.
Donc, en termes de... Là, on arrive à des problématiques de cybersécurité un petit peu dans la création de doubles fantomatiques qui nous permettent de se rendre invisibles vis-à-vis de cette détection de notre comportement, de nos données, de nos identifiants, qui ensuite pourraient être réutilisés de façon négative à notre encontre. Donc, c'est un petit peu paradoxal quand même. Pour revenir à la relation entre corps physique et corps digital, donc le figital, quels sont les changements opérés, est-ce que ça change finalement de rencontrer quelqu'un sur un réseau informatique, sur Internet, ou en vrai dans la réalité?
I think so. I think there is a difference, and I think that we are like I mentioned earlier, I think that there's something really beautiful about the fact that we can meet people from all over. There's also something scary in the fact that we don't know any longer who it is that we are actually interacting with. And one of the things that has been really eye-opening, certainly in my country, with all of this investigation over interference in the presidential election, is the idea that the Russian government was creating all of these online personas specifically to go on Twitter and Facebook or Instagram and feed propaganda to people. And so when we think about propaganda, we think about it very often in the science fiction or political novel context of the government, you know, with giant posters and, you know, bullhorns. But what propaganda now has become is pretend people interacting with us, and we don't know that they're not people, that you're having an argument with somebody on Twitter and it's a robot, or it's somebody pretending, you know, someone in St. Petersburg pretending to be someone in Chicago. And so I think that, to sort of come back to your question, or try to, very, very rapidly, people are understanding that someone that you meet online is, you cannot assume that they are who they say they are, that there is a constant sense of shifting identity that is, we have to sort of wise up a little bit about our interactions.
Est-ce que l'homo sapiens, l'humain, va être modifié dans ces vies numériques? Et peut-être comment on va évoluer dans ces villes numériques là? Est-ce qu'on va rester des humains ou comment on va évoluer dans nos usages vis-à-vis de tout ça? Puis on pourra peut-être conclure là-dessus.
J'ai déjà fait allusion à certaines des façons peut-être de nous changer pour éviter la surveillance, parce que si on ne peut pas changer les systèmes politiques, ça deviendra un des seuls recours. On peut envisager des scénarios extrêmement troublants également, où on changerait jusqu'à nos codes génétiques pour être moins peut-être différenciables les uns des autres, parce que quelque part c'est justement notre individualisation via nos comportements, via nos noms, via notre ADN qui, quelque part, nous rend appréhensibles par les systèmes de surveillance. Si on se ressemble tous à la fin, on peut peut-être aussi, justement, commencer à déjouer la surveillance. Ça peut être une voie. L'invisibilité moderne, c'est intéressant. La science-fiction a commencé à penser l'invisibilité dès Wells, mais l'invisibilité, évidemment, physique. De nos jours, on est beaucoup plus intéressé par l'invisibilité numérique, l'invisibilité médiatique. Et je ne suis pas sûr quelle voie nous allons prendre, mais j'en ai suggéré quelques-unes, mais c'est quelque chose qui va peut-être devenir la nouvelle utopie, de devenir invisible.
Et puis, il y a un phénomène, si on regarde tout ça un petit peu sur une échelle de temps assez courte, parce qu'on parle du numérique, mais ce à quoi on assiste, en fait, c'est que les interfaces, c'est-à-dire notre rapport avec les machines et les algorithmes, se rapprochent toujours davantage de notre corps jusqu'à fusionner avec notre corps lui-même. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant les débuts de l'informatique, on interagissait à distance, voilà, avec un écran. Et puis petit à petit, on est passé de ce que je résume moi d'une formule en disant on est passé du World Wide Web au World Wide Wear, c'est-à-dire qu'on porte sur nous des vêtements connectés, des montres connectées, des téléphones évidemment, qui encore une fois nous captent et nous tracent en permanence. Et l'étape d'après, on y est déjà, et pas uniquement dans le domaine de la science-fiction, c'est après être collé sur notre corps, on a déjà aussi des tatouages aujourd'hui numériques. L'étape d'après, c'est tout simplement de rentrer dans le corps lui-même avec des puces RFID pour allumer un ordinateur, allumer la lumière. Alors là aussi, sur la base du volontariat ou pas, ça dépend. Et puis, avec l'étape ultime, c'est le séquençage, la modification, c'est ce qui était évoqué du génome et de l'ADN, où là, effectivement, le corps numérique, dans la ville numérique ou non d'ailleurs, sera lui-même modifié.
There's no question that these things will happen, that by 5-10 years from now, what we now carry in our pockets or wear as a watch will be in our fingertips as a microchip or in our, you know, that has so quickly gone from a crazy science fiction idea to, well, obviously, you know, and that's happening. And we will be able to turn on the lights or go on the internet by, you know, by thinking about it or all. And there is no question that this technology will be sold to us as a gift of convenience and a gift of connectivity in the same way that the internet was this wonderful gift of convenience and connectivity. But in the same way, I think hopefully we will can remain conscious of the fact of what we are sacrificing to gain that convenience and connectivity in the way that we have made sacrifices in our sort of essential humanity and physicality in order to gain the convenience and connectivity of the internet. Because these things are coming. There's no longer any question that my children were going to grow up in a world of this sort of physical modification and eventually the genetic modification of our bodies to merge yet closer with this connectivity. And all of us will say, wow, this is so great. Look how connected we are. And we must somehow keep reminding ourselves that there are sacrifices to this also. And now if there are chips in my fingers, then not only can I turn on the lights and go on the internet, but the government or whatever corporation sold me the chip now knows where I am all the time and can sell that information to advertisers.
Donc, si j'ai bien compris, selon vous, il s'agit de aussi imaginer des moyens de s'isoler de toutes ces technologies ubiquitaires-là et du opt-out, de se retirer de tout ça un petit peu. C'est ça ?
Oui, bien sûr, il y a une dimension effectivement où le législateur ou le politique peut imposer effectivement, en plus des acteurs économiques ou aux acteurs économiques eux-mêmes, de proposer des systèmes d'opt-out. C'est ce qui a été fait récemment avec l'adoption du RGPD au niveau européen pour que nos données personnelles soient par défaut le plus géré de la manière la plus transparente possible. Et puis après, ce qui est bien avec les technologies, même si elles ont évidemment un côté sombre, c'est que dès qu'une technologie devient en elle-même dangereuse, très vite, on développe des contre-mesures et des contre-technologies qui permettent de détourner la technologie initiale. On parlait tout à l'heure de la vidéosurveillance dans les rues. On a aujourd'hui un prototype qui a été testé, des lunettes qui effectivement permettent de flouter l'apparence de votre visage quand vous vous baladez dans la rue et que vous croisez le regard d'une caméra de surveillance. Donc on développe des contre-mesures. Il y a une culture du hack qui reste très prégnante et très forte, mais il faut que les deux aillent ensemble. C'est-à-dire il faut que le fait de pouvoir hacker une technologie aille de pair avec une volonté politique de normaliser des usages économiques pour pas être soumis à uniquement à l'ambition à une ambition marchande en fait et capitalistique.
Moi j'appelle à me méfier des prophéties autoréalisatrices. Crier haut et fort que quelque chose est inévitable, c'est quelque part le rendre inévitable. Il y a effectivement des voies politiques pour la résistance. Et bien sûr, à un moment donné, notre futur n'est pas nécessairement sur une pente ascendante. Il y a aussi des catastrophes potentielles qui nous pendent au nez, à commencer par les bouleversements apportés par les changements climatiques. Donc, si la prochaine génération sera capable de se hacker génétiquement, ce sera peut-être moins pour échapper à la surveillance que pour vivre dans la chaleur. Donc, c'est rien... c'est, il faut se méfier de nos propres penchants psychologiques humains. Quelque part, effectivement, des corporations et même les villes intelligentes veulent profiter parfois. Quand les bots et les agents russes lancent des opinions sur Internet, le but n'est pas nécessairement de convaincre, mais simplement de créer l'illusion d'un consensus. Et l'être humain est très profondément enclin à vouloir ne pas trop s'éloigner d'un consensus apparent, même s'il est illusoire, même s'il est créé par essentiellement des agences gouvernementales. Et de la même façon, si on se fait dire trop souvent que telle ou telle chose est inévitable, on finit par croire que c'est le consensus, on finit par se décourager et par renoncer à toute possibilité de résistance. Donc, moi, j'appelle à me méfier des prophéties un peu trop enthousiastes.
Vous avez évoqué le GAFAM et son pendant asiatique, etc., etc. Mais alors, quels sont exactement leurs pouvoirs d'agir négatifs vis-à-vis de nous, les usagers qu'est-ce qu'ils nous font? Pourquoi il faut s'en méfier?
Alors, pour plein de raisons, et qui sont à peu près les mêmes pour lesquelles on leur fait aussi confiance pour nous rendre des services. Mais ce dont il faut se méfier, à mon avis, c'est toujours pareil, c'est derrière un projet qui n'a d'apparence que technique et économique, ça finit par installer des normes qui sont des normes politiques. Puisqu'on parle de la ville et des corps, le projet le plus politique qui soit, c'est le projet de l'urbanisme. Il n'y a rien de plus politique que de choisir de faire un quartier résidentiel ou des tours d'habitation, parce que derrière, voilà, en fonction de l'habitat, ça va ou pas créer de la tension sociale, de la promiscuité, etc. Et derrière le projet de ces GAFA, qu'il s'agit simplement de Facebook et de son architecture de serveurs ou du projet de Google d'installer une ville intelligente qu'il va contrôler, eh bien, il y a effectivement un projet politique qui se dessine. Et ce projet politique, il y a très peu de gens, à part effectivement des écrivains de science-fiction, qui prennent le temps d'y réfléchir et d'envisager évidemment le pire, mais aussi parfois le meilleur, mais en tout cas de questionner l'idéologie qu'il y a derrière.
Je vais plaider rapidement pour ma paroisse et dire que peut-être le plus grand danger de ces GAFA, c'est une certaine naïveté. Une naïveté par rapport à l'histoire, par rapport à la société, par rapport à la politique. Et donc, il faudrait réhabiliter l'étude de l'histoire et la philosophie auprès des ingénieurs.
It's interesting because when something like Google or Facebook or even Amazon gets large enough, we start to think of it as like a public utility, right? Like the electric company or water. Like, oh, it's just everyone has it, and it's just part of the part of our day-to-day lives that we forget that it has corporate ownership and they have a economic imperative. It reminds me of, in California, where I live now, the history of water in California, that, you know, the individuals and individual interests were basically deciding who would have water and who wouldn't, but most people, most farmers and most people living in cities had no idea where the water, to our detriment, we don't think very often about where the water comes from, and now we're at this point where we don't even think about where the internet comes from. And imagine, you know, that there are people making decisions about which cities are going to have high-speed internet, which cities are going to be the smart cities, and they're making those decisions for business reasons so I think it's just important to always be thinking about who are the people that are making these decisions and why. It isn't just something that just happens one day.
Comment l'intelligence artificielle est donc utilisée par ces géants du numérique, qui sont avant tout les détenteurs de la réalité du numérique dans la priorisation des données, le profilage comportemental, les nudges, etc. Comment ils utilisent tout ça pour fabriquer aussi des réalités urbaines?
Oui, vous venez de l'évoquer, effectivement. Alors, l'intelligence artificielle, on peut mettre plein de choses derrière. Mais en gros, effectivement, l'idée, c'est d'acquérir et de collecter un maximum de données sur un maximum de choses pour derrière être capable de rentrer dans des logiques de prédiction plus ou moins automatisé et plus ou moins autonome avec des gros guillemets. Alors, moi, ce qui me pose problème dans tout ça, c'est que sur toutes les on commence à avoir un petit peu de recul sur l'usage de technologies d'intelligence artificielle, par exemple, pour surveiller la fraude financière dans le domaine des allocations ou de l'attribution ou de décisions de justice. Et on s'aperçoit que à chaque fois qu'on automatise et à chaque fois qu'on essaye de prédire une fraude ou une décision de justice, eh ben on stigmatise systématiquement les plus pauvres. Où, aux États-Unis, par exemple, à un moment donné, on a utilisé l'intelligence artificielle pour essayer de prédire le taux de récidive. Et on s'est aperçu, des chercheurs indépendants se sont aperçus que dans le mode de calcul de l'intelligence artificielle, les Afro-Américains avaient deux fois plus de chances de récidive que les autres. Alors que factuellement et sociétalement, c'était faux. Mais simplement parce que les valeurs qu'on avait installées dans le programme étaient biaisées au départ et donc accordaient davantage de risques de récidive aux Afro-Américains. Même chose dans la fraude sociale. Il y a récemment sur le site de la CAF, de deux chercheurs français, sociologues et informaticiens, qui ont publié une étude en démontrant que les systèmes de détection de la fraude aux allocations, pour faire simple, avaient tendance à stigmatiser les populations qui étaient toujours les plus démunies, y compris dans des échelles déjà de pauvreté importante. Donc ce qu'il faut questionner, c'est ça.
It's a great example, because when we build these AI systems and we like to think of them as being simply machines, super, super smart machines, and therefore neutral arbiters, but of course we are always building our own pre-existing prejudices into the systems, and then the systems replicate them very quickly and very powerfully. So it's actually, they're machines for amplifying what we already are, as opposed to being, well, we've built this excellent external judgment system. And just finally, quickly, I think it's really interesting when we think about AI, it's always this fear, the great danger is that one day it will assume intelligence and destroy us all, right? Like that, like it'll just switch over one day and become smarter than us and then we'll all be dead. But in fact, the dangers of AI are much more mundane than that, which is that they will become so much a part of our lives and they will affect us in these ways that we don't even realize. And then they are then starting to shape decisions in jurisprudence or in finance or in city making that change our lives in small ways we don't even recognize. And then they'll come to life and kill us all also.
L'intelligence artificielle reste si semblable, disons, au logiciel même d'il y a 20, 30, 40 ans, dans la mesure que ça, il vaudrait mieux en parler en disant stupidité artificielle. Parce qu'on est encore loin, justement, d'une intelligence réellement réelle, artificielle, générale et potentiellement consciente. Et certains des systèmes actuels qui reposent, justement, sur un apprentissage, un auto-apprentissage à partir de la réalité, ben, si la réalité qu'on leur donne à étudier est biaisée, est saturée de préjugés, c'est ce qu'ils vont refléter. Et ça, c'est un vieil adage de l'informatique en anglais, garbage in, garbage out, GIGO. C'était vrai il y a 30, 40 ans, je m'en souviens, et c'est encore vrai avec les systèmes actuels. C'est juste qu'on a peut-être légèrement amélioré la qualité des détritus, des ordures qui entrent et qui finissent par sortir sous la forme, effectivement, de biais et de préjugés, mais c'est pour ça que, quelque part, encore une fois, l'histoire de l'informatique, peut-être qu'elle pourrait enseigner quelque chose aux informaticiens.
En matière d'énergie et d'énergie renouvelable, parce que c'est aussi un des enjeux écologiques, en quittant un petit peu la dystopie et puis essayant de s'orienter vers des sociétés quand même en devenir meilleures, en minimisant les dégâts, quelle serait pour vous, chacun peut-être, la technologie du futur, des villes numériques, pour économiser nos énergies et faire en sorte d'arrêter de polluer, par exemple ?
Sincèrement, je ne sais pas, mais je sais que ce qui est souvent présenté comme des systèmes de capteurs. On a beaucoup parlé, par exemple, de Linky, le compteur intelligent qui mesure votre consommation en temps réel et qui vous permet, a priori, de la baisser. On s'aperçoit au final que chaque fois qu'on dispose d'une technologie avec un outil de mesure pour consommer moins, ça produit souvent des effets contraires, c'est-à-dire qu'on se focalise sur un usage de consommation et du coup, on est amené presque paradoxalement à consommer autant ou à consommer davantage. Donc, je crois qu'il y a la question... je crois que c'est je sais pas en fait, c'est compliqué.
I don't know either. I think that I can tell you that's, I don't know what the solution is, but I can tell you what the problem is. The problem is that the people with means, the wealthiest people, have already stopped trying to figure out how to stop climate change and are now just focused on how to survive it. And so what's going to happen is that, and I don't know why I'm smiling, it's a nightmare, but like the great populations of the world are going to suffer because climate change is going to continue, but those who can afford to are going to build walled cities and they're going to make sure that they're structurally sound and so that they and their children will be fine. And so I don't know what the answers are. And I think we've all been a little bit cheated by the discourse of climate change and the discourse of we all need to do our part to consume less and we all need to recycle. And that we haven't made a dent in the problem because the massive structural changes that need to happen and still need to happen have to be driven by those who are the least incentivized to make those changes because they are the ones who are most likely to be fine regardless. And then eventually build spaceships and leave.
Alors, Jean-Louis, pour sauver le futur de nos villes numériques?
Les villes elles-mêmes sont des moyens de réduire certaines consommations. Plus une ville est dense, plus la consommation de chaque personne tend à être moins que celle des personnes qui vivent en banlieue, qui vivent à la campagne. Il y a quelque chose à voir peut-être de ce côté-là. Il y a toutes sortes en ce moment justement à la limite d'idées sur... D'une part, s'adapter au climat, et ce sont des idées qui sont explorées depuis les années 70. On pense aux archéologies de Paolo Soleri, et plus récemment, à tort ou à raison, on essaie de voir si rapatrier vers les villes, même les fermes, permettrait de réduire les immenses infrastructures de transport que nous avons construites, donc d'avoir des fermes verticales en ville. Ça, il y a du pour, il y a du contre. On ne sait pas si on va aller dans cette direction. Mais les villes elles-mêmes, effectivement, sont peut-être une voie d'avenir. Je vais finir sur un peu de science-fiction quelque part, mais de la vieille science-fiction. C'est-à-dire que dès le début du siècle dernier, quand on a commencé à penser à des villes du futur, on a pensé d'abord à des villes jardins, à des villes verticales. Et très rapidement, en moins de 10 ou 30 ans, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas penser les villes isolément. Il fallait les penser à l'échelle de la région. Il fallait les intégrer justement à la région qui fournissait de l'eau, qui fournissait de la nourriture, qui fournissait peut-être d'autres services comme justement la possibilité d'aller se mettre au vert. Et très rapidement, quand je regarde quelqu'un comme Isaac Asimov avec sa ville de Trantor, une ville planète, cela peut ressembler à un cauchemar urbain, mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi implicitement l'extension finale de la planification régionale et urbaine. Autrement dit, si l'avenir va nous exiger peut-être qu'on réfléchisse nos villes à l'échelle de la planète, c'est-à-dire donc une sorte de vision holiste où on arrêtera de se focaliser uniquement sur la ville, comme si elle s'arrêtait à sa frontière, toujours assez floue d'ailleurs, et on commencera à tenir compte de la planète au complet. Donc, Trantor est peut-être la meilleure vision du futur pour des villes durables.
Est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée à des projets positifs d'amélioration sociétale pour pallier à certains inconvénients de notre nouvelle civilisation et de ses dommages collatéraux?
Euh, Je suppose que oui, bien sûr. Encore une fois, dans la mesure où une technologie n'est jamais neutre, tout dépend du projet, encore une fois, des individus, des firmes ou des sociétés et des gouvernements et des systèmes politiques qui portent ces technologies. On peut faire de grandes et de belles choses avec l'intelligence artificielle sur plein de sujets, la santé, l'éducation, mais encore une fois... Très souvent, la technologie est détournée parce qu'elle est d'abord pensée ou mise en place à des fins marchandes ou capitalistiques. Et très souvent, du point de vue du citoyen et de l'utilisateur, la technologie est utilisée comme une espèce d'alibi. C'est-à-dire le simple fait d'avoir un compteur qui nous dit « tu consommes trop d'électricité », on a l'impression qu'on est déjà devenu plus responsable alors qu'on n'a pas significativement baissé notre consommation électrique.
J'ai une dernière question pour vous, Ben Winters. Est-ce que nous arriverons dans ces villes numériques du futur à survivre en interaction aux machines ? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, le vivant, face aux machines dans nos interactions ? Comment on va s'en sortir ? Est-ce qu'on pourra s'en sortir ?
I don't know, obviously. I was just thinking, though, and there are so many... it's just... And this is the history of humanity, is trying to balance the positive aspects of new technologies against the dangers that go along with them. And when I hear that answer, and I totally agree about AI bringing improvements in society, and for example, in healthcare or in education, but then what I immediately think about is, okay, so if AI can now do the job of, for example, a triage nurse, right, of decide, you know, like, well, then what happens to the person who used to do that job? And so one of the great drivers of violence in human history is unemployment, as people who is overpopulation and the lack of jobs. So what is so marvelous about AI is that it allows so many things to happen without humans having to do it. So then what is the thing that happens after that? And I think if there's one theme to this whole conversation, it is contemplating the consequences of our embrace of new technologies, whether they have to do with artificial intelligence or the digital city or the internet, is that these innovations always come along with consequences and that are hard to foresee. So I'm going to say I have no idea what the future holds, but we can't forget that it will be both negative and positive.
Merci beaucoup.
Merci.
Je pense que voilà, c'est terminé. Merci.